C'est qu'il est si faible, notre petit sire. Il est si faible, dit-il tristement.
Mais non, messire, il reprend bien, au contraire, voyez donc, il a presque rattrapé le mien.
Et toutes ces médecines qu'on me donne me font un peu tourner le cœur, mais semblent fort lui convenir.
Bouville approcha la main et caressa prudemment le petit crâne où se formait un duvet blond.
« Ce n'est pas un roi comme les autres, voyez-vous, » murmura-t-il.
Le vieux serviteur de Philippe le Bel ne savait comment exprimer ce qu'il ressentait. Aussi loin qu'il remontait en ses souvenirs et en ceux même de son père, la monarchie, le royaume, la France, tout ce qui avait été la raison de ses fonctions et l'objet de ses soucis, se confondait avec une longue et solitude chaîne de rois, adultes, forts, exigeant le dévouement, dispensant les honneurs. Pendant 20 ans, il avait avancé le faux d'Esteuil, où siégeait un monarque devant lequel la chrétienté tremblait. Jamais il n'aurait imaginé que la chaîne pût si vite se réduire à cet enfanson rose, au menton barbouillé de lait, chaînon qu'on eût pu entre deux doigts briser.
« Il est vrai, dit-il, qu'il a bien repris. Sans cette marque laissée par les fers et qui déjà s'efface, il se distingue assez peu du vôtre.
« Oh, messire, dit Marie, le mien est plus lourd. N'est-ce pas, Jean Deuxième, que tu es plus lourd ?»
Elle rougit brusquement et expliqua.
« Comme ils se nomment tous deux Jean, j'appelle le mien Jean Deuxième. Peut-être ne devrais-je pas ?»
Bouville, par machinale courtoisie, caressa la tête du second bébé. Dans son geste, il effleura les seins de Marie. Celle-ci se méprit sur le geste, comme sur le regard obstiné du gros gentilhomme, et elle rougit plus fort.
« Quand donc, se dit-elle, cesserai-je d'avoir la chaleur au visage à tout propos ? Ce n'est point chose déshonnête ni provocante que d'allaiter. »
En réalité, Bouville comparait les deux bébés. À ce moment, Madame de Bouville entra, tenant les vêtements pour habiller le roi. Bouville la tira dans un angle en lui murmurant
« J'ai un moyen, je crois !»
Ils s'entretinrent à voix basse quelques instants. Madame de Bouville hochait la tête, réfléchissait. À deux reprises, elle regarda dans la direction de Marie.
« Demande-lui toi-même, » dit-elle enfin. « Moi, elle ne m'aime pas. »
Bouville revint vers la jeune femme.
« Marie, mon enfant, vous allez rendre grand service à notre petit roi auquel je vous vois si attaché, » dit-il. « Voici que les barons viennent pour qu'il leur soit présenté, mais nous craignons pour lui le froid à cause de ces convulsions qui l'ont pris à son baptême. Voyez l'effet s'il se mettait soudain à se tordre comme l'autre jour. On aurait tort de faire croire qu'il ne peut vivre, comme ses ennemis le répandent. Nous autres barons sommes gens de guerre et aimons que les rois fassent preuve de robustesse, même au plus jeune âge. Votre enfant, vous me le disiez tout à l'heure, est plus gras et plus beau d'apparence. Nous voudrions le présenter à sa place. »
Marie, un peu inquiète, regarda Madame de Bouville qui s'empressa de dire
« Ah, je n'y suis pour rien, c'est une idée de mon époux. »
« N'est-ce point péché, messire, que de faire cela ? » demanda Marie.
« Péché, mon enfant, mais c'est vertu que de protéger son roi, et ce ne serait point la première fois qu'on présenterait au peuple un enfant solide en place d'un héritier chétif, » assura Bouville, mentant pour la bonne cause.
« Ne va-t-on point s'en apercevoir ?»«
Et comment s'en apercevrait-on ? » s'écria Madame de Bouville. « Ils sont blonds l'un et l'autre. À cet âge, tous les enfants se ressemblent et se transforment d'un jour sur le lendemain. Qui connaît le roi en vérité ? Messire de Joinville, qui n'y voit rien, le régent, qui n'y voit guère, et le connétable qui s'y connaît mieux en chevaux qu'en nouveau-né. »
« La comtesse d'Artois ne va-t-elle point s'étonner qu'il n'ait plus la trace des fers ?»«
Sous le bonnet et la couronne, comment le verrait-elle ? » ?»« Et le jour ne lui guère de surcroît, il va presque falloir allumer les cierges, » ajouta Bouville en désignant la fenêtre et la triste lumière de novembre.
Marie ne fit pas davantage de résistance. Au fond, l'idée de cette substitution l'honorait assez, et elle ne prêtait à Bouville que de bons desseins. Elle prit plaisir à habiller son enfant en roi, à le langer de soie, à lui passer le petit manteau bleu semé de fleurs de lys d'or et à le coiffer du bonnet sur lequel était cousue une minuscule couronne, tous objets du trousseau préparé avant la naissance.
« Qu'il va être beau, mon Jeannot, » disait Marie. « Une couronne, Seigneur ! Une couronne ! Il faudra la rendre à ton roi, tu sais. Il faudra la lui rendre. »
Elle agitait son enfant comme une poupée devant le berceau de Jean Ier.
« Voyez, sire, voyez votre frère de lait, votre petit serviteur, qui va prendre votre place pour que vous n'attrapiez pas froid. »
Et elle songeait, quand je raconterai tout cela bientôt à Guccio, quand je lui dirai que son fils a été présenté au baron,
l'étrange vie que nous avons,
et que je ne changerai pour nul autre, comme j'ai bien fait de l'aimer, mon Lombard. »
Sa joie fut coupée par un long gémissement venu de la pièce voisine.
« La reine, mon Dieu !» pensa Marie. « J'oubliais la reine !»
Un écuyer entra, annonçant l'approche du régent et des barons. Madame de Bouville se saisit de l'enfant de Marie.
« Je le porte dans la chambre du roi, » dit-elle, « et l'y remettrai après la cérémonie jusqu'au départ de la cour. Vous, Marie, ne bougez point d'ici avant que je revienne. Et si quiconque pénétrait, malgré la garde que nous allons mettre, affirmez bien que cet enfant que vous avez avec vous est le vôtre. »